autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour une rediffusion estivale à écouter la tête dans les étoiles, aujourd'hui et même au-delà, pour tenter d'imaginer l'univers depuis les origines. Le Big Bang et la naissance des galaxies, son expansion et jusqu'à la topographie des exoplanètes qu'on ne cesse de découvrir à des dizaines, voire des centaines d'années-lumière autour d'autres soleils que le nôtre. Comment appréhender un tel espace-temps, sachant qu'on ne connaît même pas la matière même qui le compose, la mystérieuse matière noire, et que chaque nouvelle fenêtre d'observation en astrophysique ouvre sur de nouvelles hypothèses sidérales, comme celle des multivers et d'autres formes de vie extraterrestres. Alors où en sommes-nous exactement? Pour faire le point sur l'avancée des connaissances en cosmologie et sur l'étendue de notre ignorance, nous proposons de réécouter le vertigineux entretien que nous avait accordé en mars dernier l'astrophysicienne Françoise Combes, professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Galaxie et Cosmologie, en compagnie du planétologue Frédéric Schmitt, qui nous avait, lui, fait entrevoir l'invisible, la topographie des exoplanètes. Autour de la question « Comment imaginer l'univers ?» et « Pourquoi notre imagination est toujours moins vaste que le cosmos ?» Bienvenue. Bonjour Françoise Combes.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir pour voyager dans l'espace et dans le temps. Vous êtes Françoise Combes, professeure au Collège de France, où vous avez été la première femme titulaire d'une chaire d'astrophysique, en l'occurrence galaxie et cosmologie. Il faut dire que vous travaillez depuis une quarantaine d'années sur l'histoire de l'univers et la naissance des galaxies. Astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, vous vous êtes passionnée pour l'énigme de la matière noire dans notre univers en expansion. Une expansion qui s'accélère en plus, mais jusqu'où et comment? Depuis le Big Bang, c'est une des immenses questions de l'astrophysique aujourd'hui, sur laquelle vous revenez dans un que sais-je sur le Big Bang. Pourquoi le Big Bang aujourd'hui, Françoise Combes? C'est important de partager à la fois ce qu'on sait, mais aussi ce qui reste à découvrir. C'est un moment charnière.
Oui, c'est vrai, on peut dire que c'est un moment charnière parce qu'on vient de rassembler tous les résultats du satellite Planck. Le satellite Planck, c'est un satellite européen qui a été lancé par l'ESA en 2009. En 2013, il y avait le premier résultat. Puis il a continué à faire la cartographie de tout le ciel dans les ondes radio millimétriques, donc les micro-ondes. Et on a aujourd'hui, en 2018, les derniers papiers qui sortent et qui confirment alors à 100% le Big Bang, la théorie du Big Bang, plus personne ne la met en doute. Et puis aussi, ce qu'on recherchait derrière, c'est à l'origine du Big Bang, c'est-à-dire la théorie de l'inflation, par exemple. On a essayé de la mettre en évidence.
C'est-à-dire alors, ce qu'il y a quoi? Juste avant le Big Bang ou ce qui a provoqué le Big Bang?
Oui, en quelque sorte, les deux. On pense qu'avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y a? C'est la grande question. On pense qu'il y a de l'énergie quand même, l'énergie du vide, parce qu'en mécanique quantique, le vide, ce n'est pas rien. Il y a quand même des fluctuations d'énergie. Et on pense que tout notre univers est venu de ces fluctuations-là. Et que ces fluctuations ont été augmentées, dilatées, pour devenir quelque chose de macroscopique, par cette inflation, qui est énorme. Il y a 30 ordres de grandeur de dilatation en 10⁻³ secondes. C'est extrêmement rapide. Et pour avoir la preuve de cette inflation, parce que pour l'instant c'est une théorie un peu spéculative, il aurait fallu détecter les ondes gravitationnelles qu'ont provoqué cette grande explosion du Big Bang. On peut s'imaginer que c'est une énorme explosion.
Or, on a détecté des ondes gravitationnelles, mais pas celles originelles du Big Bang.
Exactement. En 2015, on a détecté celles qui provenaient de la fusion de deux trous noirs. Et ça a été un exploit formidable, parce que c'est quand même des ondes, l'espace se dilate et puis se raccourcit et fait des ondes comme ceci. Mais lorsqu'il y a le Big Bang, ça fait une explosion énorme et on voit bien que tout l'univers oscille comme un tambour. Et on pourrait détecter ces ondes, elles sont très fines et on ne les a pas encore détectées malheureusement avec Planck. Mais on pense que les missions ultérieures vont pouvoir la détecter.
Bonjour Frédéric Schmitt.
Bonjour.
Ravi de vous avoir en direct avec nous. Alors pour imaginer, et même prochainement imager l'invisible carrément, ces exoplanètes trop lointaines pour être directement observables. Vous êtes professeur à l'université Paris Sud, Paris Saclay, où vous étudiez la géologie des surfaces planétaires au sein du laboratoire GEOPS. Les planètes de notre système solaire n'ont en gros presque plus de secrets pour vous. Mais comment, avec votre équipe, Frédéric, avez-vous réussi à mettre au point une technique pour imager bientôt avec les nouveaux grands télescopes dont on vient de parler, pour déduire en fait la topographie, la surface d'exoplanètes si petites et si loin de notre système solaire, qui sont totalement inobservables en plus, enfin directement.
Vous avez raison, donc, ce sont des objets qui sont extrêmement lointains. Pour les observer réellement, en faire une image, on aurait besoin d'un télescope, qui, si on le posait à Marseille, qui permettrait d'observer une aiguille dans une botte de foin à Paris. Et on n'a pas cette technologie-là aujourd'hui, malheureusement, donc on n'a pas moyen d'observer l'exoplanète.
Parce qu'une exoplanète, l'image, c'est vraiment comme une aiguille dans une botte de foin à Marseille quand on est à Paris ou vice-versa.
Exactement, ça, ce serait la plus facile à observer. L'exoplanète la plus proche, la plus grande qu'on pourrait observer. Et évidemment, c'est très loin et les objets sont extrêmement loin. Et donc, du coup, c'est très difficile de les observer. De les observer de manière directe, c'est-à-dire faire une image résolue, c'est-à-dire une image où on voit la forme de l'objet. Donc, on ne peut pas avoir la forme de l'objet, mais ce qu'on peut avoir, c'est des indications indirectes sur sa forme.
C'est-à-dire qu'on sait qu'elles existent, on sait qu'elles sont là. On a détecté plus de 6000 là en quelques années.
Il y a plusieurs méthodes de détection. Une méthode de détection, c'est tout simplement... une étoile, ce serait comme un éléphant qui danse avec un moustique. Le moustique, ce serait la planète qui tourne autour. Et donc l'étoile...
L'étoile, c'est l'éléphant et le moustique, c'est la planète qui tourne autour.
Tout à fait. Okay. Et donc ils dansent l'un avec l'autre. Et on voit l'étoile bouger, on voit l'éléphant se déplacer. Et, par contre, le moustique, il est tellement loin qu'on ne le voit pas. Et donc on voit ces déplacements, et ces déplacements indiquent qu'il y a un moustique, que l'éléphant est en train de danser. Et donc il y a plein de méthodes qui permettent de voir ces mouvements-là. Et donc, cette méthode-là permet de montrer qu'il y a effectivement des exoplanètes dans ces systèmes, ces étoiles qui sont très très loin de nous.
Et par vous, contre, plus fort encore, vous allez essayer d'imaginer la surface de ces moustiques qui tournent autour d'éléphants et d'imaginer leur forme, s'il y a des montagnes, s'il y a de l'eau.
Exactement, donc cette méthode-là ne permet pas en fait d'avoir la forme. Alors comment on peut avoir la forme? Avec une autre méthode de détection qu'on appelle les transits. Donc c'est comme une éclipse, la planète passe devant l'étoile et du coup cache un petit peu de la luminosité de l'étoile. Et donc l'étoile brille un petit peu moins fort. Et on sait mesurer cette brillance un petit peu plus faible, hein, qui est de centaines de millionièmes de fois. Hein, donc c'est vraiment très petit la différence, mais on sait les mesurer. Et du coup, comme elle cache un petit peu l'étoile, eh ben, on a accès en quelque sorte à sa forme moyenne. Le disque qui cache l'étoile qui est juste devant.
Autour de la question comment imaginer l'univers, on va revenir sur ces exoplanètes et sur leur topographie, mais on va commencer d'abord par nous poser quelques questions intersidérales et sidérantes. C'est le mix cosmologique d'Hugo Violas.
Vous savez qu'il existe des milliards de galaxies et que la nôtre s'appelle la Voie lactée?
Oui, bien sûr que je sais.
Devant nous se dresse une masse gigantesque. La nébuleuse du crabe. Mais au fait, où sommes-nous?
Mais si on l'a jamais observée ni détectée, cette matière noire, comment on fait pour être sûr qu'elle existe?
Il faut aller au-delà de notre système solaire, à 39 années-lumière. Autour de cette étoile, baptisée TRAPPIST-1, des chercheurs belges viennent de repérer cette planète potentiellement habitable.
La civilisation indienne considérait que notre monde était une demi-sphère supportée par 4 éléphants, eux-mêmes supportés par une grande tortue.
Il s'agit de Oumuamua, dont on savait de sources sûres qu'il s'agissait d'un astéroïde. Et puis finalement, on avait changé d'avis, c'est une comète. Et puis finalement, on a rechangé d'avis, on ne sait pas.
Est-ce qu'il existe d'autres univers que le nôtre? Est-ce qu'il existe d'autres exemples de vous? Est-il possible de passer de notre univers à un univers parallèle à travers des passages qui se cacheraient un petit peu partout dans notre univers?
Bon, avant de nous embarquer dans l'hypothèse des multivers, parce que vous allez nous y entraîner, Françoise Combes, je propose de commencer par le Big Bang, puisque ce que sais-je que vous venez de publier sur la question, le Big Bang, la théorie du Big Bang, vous nous avez dit qu'au fond, c'est le commencement pour nous, mais on n'est même pas sûr que ce soit le commencement, c'est ça, et c'est ce qu'on recherche.
Oui, on n'en est pas sûr, parce qu'on sait quand même que toutes les galaxies, tout ce qui nous entoure, en fait, tout l'univers qui nous entoure, était à l'époque, c'est-à-dire 13,8 milliards d'années, était réunis dans un point. un point très chaud et très dense. Donc c'est ce qu'on appelle le Big Bang, c'est un petit peu comme une explosion en quelque sorte. Mais ce qui est avant, on ne s'y risque pas. Alors pourquoi on ne s'y risque pas? C'est qu'on ne connaît même pas la théorie fondamentale de la gravité. Lorsqu'on est à des petites échelles, à ce moment-là, on a la physique quantique qui prend le relais. Donc il faudrait trouver une loi de physique gravité quantique.
Pour pouvoir remonter avant le Big Bang. On ne connaît même pas la loi qui permettrait d'y remonter. Donc il y a du boulot hein, pour les physiciens et les astrophysiciens, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui avec certitude, donc vous l'avez dit, la théorie du Big Bang est confirmée. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'univers est en expansion. Ça aussi, c'est une certitude.
Alors ça, on le sait depuis presque un siècle. En fait, c'est à peu près en 1920. Donc on y arrive, presque un siècle, on commençait à voir les galaxies autour de nous par effet Doppler. On a leur vitesse hein, par effet Doppler. Et on voyait qu'elles s'éloignent de nous assez vite. Hein. S'éloignent toutes. Il n'y en a pas beaucoup.
Tous en train de s'éloigner les uns des autres, voilà. Sans s'en rendre compte.
Dès qu'on est un petit peu loin, bon, ce n'est pas le cas de la galaxie Andromède, qui est notre plus proche voisine, parce qu'elle va rentrer en collision avec nous. Donc elle se rapproche de nous, parce qu'elle est très proche.
Combien de temps elle va rentrer en collision?
2 milliards d'années.
D'accord, on a encore un peu de temps pour en parler, oui, c'est ça.
Mais tout le reste, un petit peu plus loin qu'Andromède, alors tout s'en va, mais alors avec des milliers de kilomètres par seconde, hein, c'est quand même beaucoup.
C'est beaucoup, et ça s'accélère en plus, cette expansion.
Alors voilà, ça s'accélère, ça on l'a appris en 1998. On pensait jusque-là que l'expansion de l'univers était décélérée. Alors pourquoi? Parce que quand même, les forces qui sont en présence sont que la gravité. La gravité, ça attire, la pomme tombe sur la Terre. Mm-hmm. Donc on pensait qu'il y a une explosion qui envoie tout en l'air, et puis ensuite ça devrait retomber par sa propre gravité. Et puis là, pas du tout. Ça s'accélère. Alors, comment on l'a su? C'est qu'on a regardé des jalons, des petits phares, qui sont les supernovas. Supernova, c'est une étoile qui explose. Et on a remarqué que certains types de supernovas avaient toujours la même luminosité intrinsèque au maximum de leur explosion. Donc ça, c'est très intéressant. C'est un indicateur de distance. Donc, on mesure l'explosion. On a un petit peu... Ça dure un mois, en fait, l'explosion de supernovae. Donc, on regarde la courbe de lumière pendant un mois. On a le maximum et on peut en déduire la luminosité intrinsèque. Donc, la luminosité apparente nous donne la distance. Et on s'est aperçu qu'elle était beaucoup plus loin que prévu. Parce que jusqu'à présent, la distance était connue uniquement avec l'expansion de l'univers. On a la loi où la vitesse est proportionnelle à la distance, et puis on a la distance. Et en fait, ça ne correspondait pas à la distance prévue. Donc, elles étaient plus loin. On était obligé de penser que l'expansion était accélérée. Et donc, il a fallu inventer quelque chose, une autre loi qui repousse au lieu d'attirer. La gravité attire, il fallait inventer une énergie noire qui repousse.
Voilà pourquoi on parle d'énergie noire qui repousse. Alors, jusqu'où l'expansion de l'univers s'accélère? Voilà qui ouvre encore de nouvelles questions vertigineuses. Entre passé, toujours présent et futur, précision et éclairage du célèbre astrophysicien Hubert Reeves sur RFI.
L'univers est en expansion. Les galaxies s'éloignent, ce qui veut dire que l'univers se refroidit. Ça, c'est le passé, c'est quelque chose de bien établi. Mais quoi pour l'avenir? Est-ce qu'il va continuer à se refroidir indéfiniment, c'est-à-dire que les galaxies vont s'éloigner de plus en plus et que nous allons aller vers des températures extrêmement faibles, ce que les Américains appellent « the big chill », c'est-à-dire le gel? Ou bien est-ce qu'après un certain temps, les galaxies, à l'image du caillou que vous lancez et qui revient sur lui-même, est-ce que les galaxies vont cesser de s'éloigner et revenir sur elles-mêmes? Et là, ça aura pour effet que la température qui était décroissante va remonter vers le Big Bang, ce que les Américains, dans leur langage imagé, appellent le Big Crunch.
Éclairez-nous, Françoise, comment entre Big Chill, le grand froid, le Big Bang, le Big Crunch
Alors, pour l'instant, si on extrapole toutes nos connaissances, on va vers le Big Chill. Hein.
Le grand
froid.
Hein.
Le grand froid, parce que tout s'expanse de façon accélérée. Et en fait, on n'a pas l'impression qu'on va retomber. Alors par contre, il y a des théories qui disent, bon, on ne connaît pas tout, hein, il ne faut pas extrapoler, c'est comme la bourse, elle ne monte pas jusqu'au ciel, hein, donc de temps en temps elle retombe. Et comme on ne connaît pas, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, donc il faut être assez humble, on s'est trompé dans le passé, donc pourquoi pas dans le futur. Et donc on pourrait imaginer, certains, mais ce n'est pas la majorité, hein, mais il y a peut-être quelques pourcents d'astronomes qui font des théories cycliques. C'est-à-dire que le Big Bang n'est que la suite d'un Big Crunch, et puis il y aura plusieurs cycles comme ça, de Big Bang et de Big Crunch, et ça peut durer indéfiniment, donc il n'y a pas de début ni de fin.
Ça peut durer indéfiniment, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et ça nous amène aussi à cette hypothèse complètement insensée, mais que pourtant vous étudiez, l'hypothèse des multivers.
Alors là, les multivers, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a un Big Bang à notre univers, et un début. Et c'est pas notre univers qui a eu un cycle comme ça et qui est toujours le même univers qui se vient. C'est des univers différents.
Ce serait des univers différents qui auraient chaque fois un Big Bang.
Voilà, exactement. Et à ce moment-là, il y aura un Big Chill aussi dans chaque univers. Enfin, chaque univers. On ne connaît pas les constantes de chaque univers parce que notre univers, il va en effet avec une accélération de l'expansion, il va vers un big chill, un gel bientôt. Mais par contre,
rappelez-nous votre échelle.
Ah oui,
de bientôt.
C'est des milliards d'années.
D'accord,
quand même,
dans quelques milliards d'années.
Mais il se peut que les constantes initiales des univers multivers soient différentes, et donc il se peut qu'ils soient très courts. Ils font un tout petit Big Bang et puis retombent et puis c'est fini, ou alors ils soient beaucoup plus rapides, etc. Nous, on est vraiment bien placé pour avoir le développement de la vie, parce qu'il a fallu des milliards d'années pour que la vie se développe. Et si l'univers était plus court, on n'aurait pas eu le développement de vie sur Terre, par exemple. Donc, on est peut-être chanceux. Et dans les multivers, ne sont peut-être pas aussi chanceux. Enfin, on peut tout imaginer,
mais on imagine des multivers. Il n'y a pas qu'un univers, il n'y a pas que le nôtre. Ça semble quand même de plus en plus.
Mais en fait, ce n'est pas seulement l'imagination, c'est une conséquence de l'inflation. Donc, nous parlions tout à l'heure de l'inflation.
L'inflation de l'univers.
Voilà, l'inflation de l'univers. Alors, l'inflation, c'est un petit peu différent de l'expansion. Hein. L'expansion, ça dure 13 milliards d'années. Mais l'inflation, ça ne dure qu'une toute petite fraction de seconde. Hein. 10⁻³² secondes, c'est-à-dire 0,0000 et 30 zéros jusqu'à 1 pour avoir la fraction de seconde. Vous voyez, c'est très, très, très petit. Et pendant cette toute petite fraction de temps, l'univers s'est dilaté beaucoup plus que pendant l'expansion, de 30 ordres de grandeur. Donc, c'est-à-dire que les petites fluctuations quantiques du vide, donc il y avait du vide avant, ces petites fluctuations dans cette inflation sont devenues macroscopiques, et chaque fluctuation peut devenir une galaxie, des fluctuations que l'on voit dans le fond cosmologique.
Donc chaque fluctuation pourrait donner un de ces multivers. Voilà pourquoi on parle de début.
Alors, chaque fluctuation donne déjà des structures, hein, comme les galaxies.
D'accord.
Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette inflation s'arrête à un moment donné. C'est en fait, en quelque sorte, le vide qui n'est pas stable. Donc, ce vide est en expansion accélérée, exponentielle. Et puis, au bout d'un moment, il tombe dans sa voie de stabilité. Il devient un univers. Et c'est notre cas. Notre univers est devenu relativement stable. Par contre, tout le vide autour de nous est encore en expansion.
Et donc, nous sommes stables, mais voilà. Le vide autour de nous est en expansion.
Voilà.
Vous êtes astrophysicienne ou poète, Françoise Combes, rappelez-moi, parce que moi, quand je vous entends, je me pose la question.
Et en fait, c'est une traduction en mots, un petit peu de tous les jours, des équations, de l'inflation. Hein. Et cette inflation, on s'est aperçu qu'elle était indéfinie, on n'arrivait pas à l'arrêter. Donc, de temps en temps, elle s'arrête et forme un univers, mais le reste du temps, elle ne s'arrête pas. Et elle est infinie, on ne peut pas l'arrêter.
Donc
si l'inflation existe, l'inflation est indéfinie.
Est indéfinie, et nos mondes et nos univers sont infinis et indéfinis.
Exactement.
Autour de la question comment imaginer tous ces univers infinis et indéfinis, on s'en remet au musicien de Scars on Broadway sur RFI. Le morceau s'appelle Universe.
The sky like this.
dans les fluctuations de l'univers Universe du groupe Scars on Broadway sur RFI. Autour de la question comment imaginer le son de l'univers maintenant. Vous nous avez renvoyé Françoise Combes sur une autre musique imaginée, ou plutôt transposée par la NASA, à partir des images du télescope spatial Hubble. Si l'espace était une mélodie, ça pourrait donner ça. C'est la NASA qui a mis en musique la photo d'une galaxie. Hein. Précisons bien, Françoise Combes, que dans l'espace, il n'y a pas de...
Non,
c'est du vide, il n'y a pas de son.
Mais là, c'était un champ profond de Hubble. C'est-à-dire, ils ont pendant plusieurs jours intégré la même fraction du ciel pour voir des galaxies très très lointaines, donc très faibles, des petits points. Et donc, il y a des multitudes, des milliers de galaxies dans un tout petit champ. Il n'y a pas d'étoiles de notre Voie lactée, on n'est pas perturbé, et il y a énormément de galaxies. Alors ce qu'ils ont fait pour remettre en musique, c'est qu'ils ont fait balayer ce champ. Il y a des milliers de galaxies, donc celles qui sont proches, alors on les connaît parce qu'avec l'expansion de l'univers, on a l'effet Doppler, on sait celles qui sont lointaines, celles qui sont proches, et donc celles qui sont proches sont plus graves, celles qui sont lointaines sont plus aiguës, et donc ils font une musique, ils balayent le champ, ils font une musique, donc c'est la lecture du champ profond de Hubble qui donne la musique.
La lecture du champ profond de Hubble, la lecture de ces ondes hein, qui sont voilà. Inaudibles. De toute façon, c'est toujours
pour l'instant des ondes de lumière. En
des
fait.
Ondes, c'est ça.
On les voit, mais aussi on peut les entendre.
On peut les transcrire. Voilà, les transcrire pour les entendre. De toute façon, aujourd'hui, l'univers, il s'observe plus jamais directement. C'est toujours et souvent indirectement. On en revient à ces exoplanètes. Frédéric Schmidt, vous nous avez dit que c'était par leur ombre qu'on pouvait les détecter, hein, par l'ombre de leur étoile, l'image que vous avez donnée, moi je la garde bien en tête, c'est celle ces exoplanètes qui sont comme des moustiques qui tourneraient autour d'un éléphant qui danse, hein, et le moustique on le voit pas, mais l'éléphant on le voit. Vous arrivez aujourd'hui, vous nous avez expliqué à imaginer à travers l'ombre, à détecter la topographie de ces exoplanètes. Et qu'est-ce qu'on détecte ? Est-ce que ces exoplanètes, donc hors de notre système solaire, très loin, minuscules, qu'on peut pas voir directement, est-ce qu'elles ont une géographie, une topographie, une surface un peu identique à celle des autres planètes ?
Alors, on aimerait bien évidemment le savoir. Alors, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Probablement, donc en 2025, avec la prochaine génération de télescopes, on aura des informations. Donc, comment on fait pour avoir cette information-là ? C'est parce que justement, cette ombre va dépendre de la forme de la planète. Et si on a effectivement une topographie, on va avoir une ombre qui va être un petit peu plus grande. Si on a une grande montagne, on va avoir une ombre un petit peu plus grande que si on a une planète entièrement sphérique. Et s'il y a une toute petite montagne, il y aura une petite baisse de brillance qui sera beaucoup plus faible. Et donc c'est à partir de cette baisse de brillance, cette ombre-là, qu'on va pouvoir avoir des informations sur la topographie.
Et ça, c'est pas de l'imagination, ce sont de vraies informations. Vous faites aussi circuler sur le net une vidéo incroyable où on peut voir en 3D ces exoplanètes, donc on pourrait jamais voir ni à l'œil nu ni avec un instrument. C'est pas de l'imagination, c'est de la simulation, c'est de la retranscription.
Alors,
comment est-ce qu'on peut dire ça ?
Celles-ci sont vraiment de l'imagination dans le sens où on a...
Celles qu'on peut voir sur le net. Le lien est sur notre page.
Celles-ci sont vraiment de l'imagination dans le sens où elles sont attachées à aucune observation. Il faudra attendre 2025 pour avoir les observations. Par contre, une étude de l'année dernière a montré qu'on pourra voir ces effets de la topographie. Et donc, reconstruire une topographie réaliste est extrêmement importante. La méthode proposée l'année dernière permet de savoir s'il y a des montagnes, s'il n'y en a pas, en fonction des différents transits, donc des différents passages de vent. Par contre, quelle est exactement la forme, où se trouve réellement cette montagne, c'est quelque chose de difficile, en fait impossible à voir directement avec l'observation. Si vous mettez une montagne en haut, une montagne en bas, l'ombre va être exactement la même. Et donc, on a besoin d'informations complémentaires pour savoir comment sont organisées les montagnes, les zones lisses, les zones rugueuses sur les planètes.
Pour pouvoir s'y poser un jour, on en est évidemment bien loin, pourquoi est-ce qu'on a à ce point-là besoin de ces informations ? Pour comprendre de quoi sont faites ces exoplanètes ? Pour se dire un jour si on veut y aller ou si on veut les observer
Alors évidemment, la topographie des exoplanètes, c'est un des éléments, surtout on parle d'exoplanètes, planètes ici telluriques, hein, c'est-à-dire des planètes rocheuses, hein, comme la nôtre, on peut marcher dessus.
Oui, les gazeuses, on n'en parle pas.
Voilà, il y en a des gazeuses, évidemment, aussi, qui sont aussi très intéressantes, mais voilà. Donc, c'est forcément notre quête de retrouver une sœur, une planète qui serait identique à la nôtre. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Cette question est évidemment un moteur énorme pour l'exploration spatiale et les scientifiques en général. Donc, cette question est évidemment très importante. Et puis, la diversité, finalement, des exoplanètes est extrêmement importante pour répondre à cette question. Donc, on a besoin de savoir, est-ce que les planètes sont rugueuses ? Quelles sont leurs topographies ?
Alors, quand vous dites rugueuse, c'est quoi ? C'est parce qu'il y a rugueuse, ça veut dire qu'il y a du relief.
Rugueuse, ça veut dire qu'il y a du relief, en effet. Donc, ce que nous avons fait pour estimer ces paramétrisations de la rugosité dans les différentes pour les exoplanètes, nous avons étudié le système solaire. On a étudié la Terre, évidemment, la Lune, Mars, Mercure, des corps qu'on connaît très bien par leur topographie. Et on a remarqué qu'il y avait effectivement une régularité. La rugosité n'était pas aléatoire. Elle a une certaine régularité qu'on peut appeler multifractale. Et c'est cette régularité...
Alors, on va s'arrêter sur tous ces mots parce que c'est important. Fractale, on voit à peu près ce que c'est. C'est quand la même forme se reproduit, on va dire dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Pour faire très très simple, c'est en gros la vache qui rit avec ses boucles d'oreilles de vache qui rit. Enfin, la fractale, on peut dire que c'est un peu ça.
Tout
ou le
à
flocon
fait,
de
c'est
neige.
Ça, la symétrie d'échelle.
La symétrie d'échelle. Vous le dites bien mieux que moi. Les multifractales, ça veut dire quoi ?
Donc c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette symétrie d'échelle. Quand on zoome, on retrouve la même chose, mais on va avoir une information supplémentaire qui se reproduit à toutes ces échelles. C'est le fait qu'il y ait à la fois des zones lisses et des zones rugueuses. En France, par exemple, il y a les Alpes, c'est une zone très rugueuse, mais pourtant, Grenoble est la ville la plus plate de France. Donc il y a des zones lisses et rugueuses à toutes les échelles, sur toutes les surfaces planétaires.
Et ça se retrouve dans le système solaire et au-delà ?
On l'a retrouvé donc dans tous les objets connus du système solaire. Et donc notre idée, c'est de dire que si on le retrouve dans le système solaire pour tous nos objets, on devrait aussi les retrouver pour les exoplanètes.
Et vous espérez bientôt, avec ces grands télescopes, pouvoir arriver à vérifier ce que vous simulez ou à avoir des données plus précises ?
Alors c'est plutôt des données plus précises parce que pour vraiment vérifier, on aura besoin vraiment d'imager, c'est-à-dire cette fois-ci plus d'imaginer, hein, mais d'avoir réellement la topographie. Et ça, ce sera vraiment dans très longtemps, peut-être une centaine d'années quand la technologie sera suffisamment prête. Mais en attendant, on peut préparer du coup ces observations-là et donc avoir des informations statistiques sur la topographie sans vraiment avoir la forme exacte de ces objets.
En tout cas, je vous invite, chers amis auditeurs, internautes, à regarder en vidéo ces animations multifractales en 3D de la topographie des exoplanètes. Le lien est sur notre page. Et puis en bande-son d'illustration, vous avez choisi, Frédéric, le groupe Blockstock, qu'on écoute tout de suite sur RFI, For the Good of the Land. Vous nous direz le pourquoi de ce choix musical et engagé.
And vacate the place. No patience for paychecks, the paper chase. Gloves and face masks, so I don't leave no traces. I don't need the loot, but I just want it in cases. So I can make a run like a day at the races. With late braces, far's gone far, gon' make it. Take it to the bank and break rank. Break down, break out, break up of a piece. Say peace, take it back to being a thief. Beat the cops on the beast, sneaking in the service entrance undetected. Security cameras exposed when I wrecked them. Damn near kill them, grab the loot, bounce out of the building. Not hurting no women, no children, just chilling, making a killing and billing a man. For killing the Cheyenne, pillaging Afghanistan, Robin Hood of the hood, for the good of the land. 99.9% only got a little bit, and bad jobs they can't quit. 99.9% of the people ain't rich, the rest just don't give a shit. 99.9% only got a little bit, and have no choice but to submit. 99.9% of the people ain't rich, the rest just don't give a shit. It's a new phase of life for me, a transition. Got an itchy trigger finger, I'm a man on a mission from God, like the brothers of blues. Does anybody here got any good news? I'm kinda tired of my present situation, all the tests of will and stress I'm still facing, try to figure it out. And have I still got doubts about where to go from here, what it's all about?
groupe Block Stop sur RFI for the good of the land. Pourquoi ce choix musical là, Frédéric Schmitt?
Parce que déjà c'est un groupe que j'apprécie particulièrement musicalement, mais aussi parce que le titre le dit bien, for the good of the land. On peut imaginer
pour le bien de la terre,
voilà, pour le bien de la terre. On peut imaginer effectivement des exoplanètes, l'univers. On peut imaginer évidemment aussi des voyages. Tout ça est passionnant, mais il faut pas oublier que pendant encore très longtemps, on va rester attaché à notre terre et il faut faire attention à notre terre d'un point de vue écologique, mais aussi de la répartition des richesses. Et donc,
nous n'avons qu'une seule planète habitable et à nous de la garder habitable.
Exactement, hein. Et voilà, cette chanson nous le rappelle.
François Scombe, vous aussi, vous pensez qu'on parle de voyage interstellaire, vous étudiez l'univers et l'espace, mais enfin, notre planète Terre, pour le moment, c'est la seule que l'on sache qui abrite la vie et qui nous abrite, nous. Hein.
Oui, parce qu'on l'a tout proche, mais je suis persuadée, enfin, intimement, je n'ai aucune preuve, mais je suis persuadée qu'il existe d'autres terres ailleurs qui sont habitables et peut-être même habitées. Parce que quand on regarde l'immensité, hein, on avait dit que dans l'univers observable, autour de nous, on a 300 milliards de galaxies, qu'il y a peut-être aussi 200 milliards de planètes dans notre propre galaxie. Donc il faut multiplier déjà 200 milliards par 300 milliards. Et ensuite, c'est juste un horizon tout petit et qu'il y a sans doute beaucoup de galaxies au-delà de cet horizon qu'on ne peut pas regarder. Donc il y a enfin, pour nous, il y a presque une infinité de planètes. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait les seuls. Enfin, moi, je suis persuadée qu'il y a d'autres vies ailleurs.
Il y a d'autres formes d'autres de vie. Il y a d'autres planètes habitables, et d'autres formes de planètes et d'autres formes de vie possibles. Et pour la scientifique que vous êtes, oui, c'est pour le moment, c'est finalement le nombre qui
voilà, c'est
fait
le nombre
loin.
Et
c'est la probabilité.
Il ne faut pas qu'on se penser... on s'est toujours trouvé le centre de l'univers. Hein, déjà, avant Copernic, la Terre était au centre. Puis ensuite, lorsqu'on a découvert la Voie lactée, on s'est trouvé au centre de la Voie lactée. En fait, on s'est aperçu non qu'on était au bord.
Et puis dans la banlieue même, hein, la Voie lactée, c'est ça.
Et puis ensuite, vers 1929, il n'y a pas si longtemps, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres galaxies, mais avant, on ne le savait même pas. Et ensuite, on a découvert 300 milliards de galaxies, ensuite des multivers. On voit bien qu'on n'est pas du tout au centre et que nous sommes une petite poussière quelque part. Et donc, on se demande... vraiment, pourquoi on serait les seuls? Je ne pense pas.
Dans cette quête d'exoplanètes, vous l'avez dit, Frédéric, c'est vrai qu'il y a aussi la quête d'autres formes de vie. Alors, on ne sait vraiment pas sous quelle forme, mais il y a ça, c'est ça aussi. C'est vu le nombre aussi d'exoplanètes qui sont découvertes depuis quoi? Depuis même pas une vingtaine d'années.
Depuis 1995.
Depuis 1995.
Première détection avec voilà, cette vitesse radiale. Donc, voilà, l'éléphant qui danse à côté du moustique.
Et depuis 6164,
très exactement, au 22 février 2019, donc effectivement, on en découvre tous les jours et il va y en avoir de plus en plus puisqu'il y a énormément de missions spatiales et d'observatoires au sol qui observent.
Et à chaque fois, avec l'idée de trouver quoi, d'autres planètes similaires à la Terre ou qui pourraient abriter la vie, mais là encore, j'imagine que ça fait appel à notre imagination, parce qu'on cherche quoi finalement?
Alors, on cherche en fait les exoplanètes en général, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, certaines sont proches de la Terre, potentiellement, avec de l'eau liquide, etc., mais certaines sont très très loin. On a des géantes gazeuses qui sont très chaudes, très loin, certaines sont extrêmement froides, d'autres sont trop proches, et donc, on trouve des planètes qui ressemblent à la Terre, mais finalement, relativement peu. Parce qu'il y a déjà des biais observationnels, c'est-à-dire c'est très difficile à les observer celles-ci, donc il faut avoir des télescopes et des techniques qui permettent de les observer, et puis peut-être parce que finalement il n'y en a pas tant que ça. Donc effectivement la statistique est extrêmement importante, et connaître une planète, savoir qu'il y a plein de planètes, je pense que c'est acquis aujourd'hui, par contre dans quelle configuration elles sont, ça c'est pas du tout évident.
Et d'arriver à la trouver, à les trouver aussi, François, parce que c'est ça. Même s'il y en a une immensité et que là-dedans, il doit y en avoir d'autres, il faut arriver à les trouver, ou bien il faut arriver à ce qu'elles nous trouvent. Alors précisément, c'est cette hypothèse, hein, d'autres formes de vie extraterrestres qui, on le dit, sérieusement étudiées entre science et science-fiction, mais vraiment être la science aujourd'hui, a été remise au goût du jour, si j'ose dire, par un professeur de Harvard. Il s'appelle Abraham Loeb, il est directeur de l'Institut de théorie et de calcul, à propos de Oumuamua, cet objet spatial non identifié intersidéral qui a traversé à toute allure notre système solaire en octobre 2017. C'était la première fois qu'un objet venu à notre système traversait notre système solaire à notre connaissance. Écoutez jusqu'où cela peut entraîner l'imagination même d'un éminent professeur de Harvard. Abraham Loeb s'explique au micro de CNN.
We are saying that Nous disons que c'est le tout premier objet interstellaire venant de l'extérieur du système solaire que nous avons vu près de la Terre, et que cela ne ressemble en rien aux astéroïdes ou aux comètes que nous avons vus auparavant dans le système solaire. Il a dévié de son orbite, mais sa forme très particulière est due à la gravité du Soleil. Il a l'air brillant et assez inhabituel. Nous disons donc qu'il a peut-être été fabriqué par une civilisation extraterrestre. C'est peut-être un vaisseau spatial ou une sonde. Nous devons mettre cette possibilité sur la table. Mais malheureusement, notre invité spécial, que nous avions au dîner, a déjà quitté notre maison et il est maintenant dans une rue sombre. Donc on ne peut plus vraiment le voir. Mais nous pouvons rechercher d'autres invités qui sont venus de ce pays étranger et peut-être les étudier beaucoup mieux à l'avenir.
Qui veut réagir à la fois sur Oumuamua, ce visiteur intersidéral, et puis sur cette proposition de ce chercheur de Harvard, Françoise Combes?
En fait, Avi Loeb est quelqu'un de bien connu maintenant, qui a déjà proposé d'ailleurs qu'on aille sur la planète la plus proche, Proxima du Centaure, qui est seulement à quelques années-lumière. Donc on pourrait peut-être, avec un vaisseau qui va à 20% de la vitesse de la lumière, peut-être en 20 ans y arriver, avec une petite webcam. Alors il a imaginé des grandes voiles, poussé par un laser, donc c'est pas du vent, mais c'est un laser qui pousse des grandes voiles, puis des webcams qui font quelques grammes. Il faudra en envoyer des milliers parce que ces webcams, elles vont tomber dans le milieu interstellaire, elles vont rencontrer une poussière et vont être détruites. Et en fait, c'est quelque chose d'assez un petit peu fantaisiste, quoi, en quelque sorte. Donc, je sais pas s'il commence à être crédible.
Il fait beaucoup marcher son imagination.
Ah, oui, hein, exactement. Oui.
Ça, c'est sûr. C'est votre impression aussi, Frédéric.
Tout à fait.
Parce qu'on rappelle quand même cet objet interstellaire. C'était quoi, une espèce de longue forme?
Alors on connaît pas sa forme, c'est exactement le même principe de ce qu'on vient de décrire à l'instant sur le transit, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas résolus, ils sont tellement loin. Par contre, leur luminosité... On a vu passer quelque chose, très très très, très vite, 160 000 km/h. Mais du coup, c'est la luminosité, cet objet a changé. Et donc, il est sombre. Est clair, mais du coup, il n'est pas résolu, on ne connaît pas exactement pourquoi il est sombre et clair. Et donc, une des raisons les plus simples, c'est de dire qu'il a une forme de cigare. Parfois, on le voit sur la tranche, du coup, il est petit, du coup, il est sombre. Parfois, on le voit perpendiculaire, donc dans la grande dimension du cigare, et là, il paraît plus clair. Et du coup, d'après ces études-là, on peut avoir une forme qui est de l'ordre de 1000 mètres par 100 mètres, pardon, de ce cigare. 1000 mètres par 100 mètres par 100 mètres. Et donc, effectivement, cette forme est très bizarre. On n'a pas trouvé d'objet comme ça dans le système solaire.
Il n'y a pas d'astéroïde qui ait cette forme d'un long cigare et qui passe aussi rapidement. Et on sait qu'il ne fait pas partie de notre système.
Voilà, parce qu'il a cette vitesse, 160 000 km par heure. En fait, il n'est pas attaché gravitationnellement au Soleil. C'est-à-dire qu'il repart. Le Soleil n'a pas suffisamment de gravité pour le capturer et donc il s'en va. Donc il vient d'ailleurs et il repart ailleurs. Et donc l'autre chose vraiment très curieuse avec cet objet, c'est qu'on sait prédire très facilement la trajectoire de cet objet. Si on connaît très bien la position à un moment donné, on peut prévoir la position demain, dans une semaine. Et on sait ce qu'on a fait, et on n'a pas réussi à prédire la trajectoire de cet objet-là. Parce que, probablement, il y a une force supplémentaire, et cette force supplémentaire, on peut l'attribuer à un dégazage. Donc finalement, c'était peut-être pas un astéroïde, mais une comète qui a dégazé, et en lâchant du gaz, finalement, elle a changé un petit peu de trajectoire. Et donc, cet argument-là a été repris par nos collègues américains, en disant, si c'est un dégazage, il doit y avoir du gaz. Mais on n'a jamais observé le gaz. Donc, c'est peut-être autre chose. Quelque chose qui est autopropulsé. Par exemple, des voiles solaires, etc. Mais ce n'est pas un bon argument. Pourquoi ? Parce que l'objet était tellement petit que le gaz, on n'aurait pas pu le voir. Donc finalement, on s'écarte un peu de la science ici. Alors c'est bien d'avoir de l'imagination, mais il faut surtout avoir une observable. Et dans ce cas-là, malheureusement, il n'y a pas d'observable. Il faudrait suivre cet objet, mais on ne peut pas. On ne sait pas envoyer un satellite qui irait à cette vitesse-là le suivre. Donc malheureusement, on ne pourra jamais répondre à la question sur cet objet-là.
Donc attention à nos élucubrations, hein, je vous voyais sourire, oui, Françoise Combes.
En fait, on a vu des objets d'astéroïdes qui sont très très loin et qui sont composés de plusieurs... Enfin, on dirait que ce sont des agrégats de plusieurs corps. Peut-être on peut imaginer que moi, c'est un agrégat de plusieurs corps. Et donc il en a peut-être perdu un tout d'un coup et donc ça a perdu sa trajectoire.
Donc il y a pas mal d'autres imaginations possibles que celle d'un vaisseau extraterrestre. Par contre, hein, je rappelle que tous les deux, vous dites, on cherche, hein, quand même de la vie extraterrestre qui doit exister ailleurs. Peut-être sur des exoplanètes. Allez, on s'arrête sur une exoplanète particulièrement jazzy sur RFI, c'est celle de Yom et des Wonder Rabbis. Exoplanète 666, carrément. The Wonder Rabbi sur RFI et sur l'exoplanète 666. Pas de mauvais oeil, mais un clin d'œil sur RFI autour de la question comment imaginer l'univers en compagnie de l'astrophysicienne Françoise Combe qui vient de publier un Que sais-je sur le Big Bang et du planétologue Frédéric Schmidt qui nous fait entrevoir la surface des exoplanètes. Je vous propose un dernier éclairage en forme de question soulevé par Stéphane Douady, physicien sur Terre, spécialiste notamment du champ des dunes de sable. Voici sa question, elle est pour vous.
Moi j'avais une question sur l'astrophysique, ou c'est plutôt la cosmologie. C'est-à-dire, c'est un domaine que j'y connais rien du tout, mais que je trouve à un moment de son histoire fascinant, parce qu'on a l'impression qu'on connaît tout, et on découvre des choses, Hubble, ça marche bien, la température de l'univers, la 4 degrés Kelvin, rayonnement fossile, tout ça, c'est très joli. Et puis après, quand on écoute les chercheurs, on a l'impression que, ah bah finalement, il y a 75% de la matière, on ne sait pas où elle est, et il y a 95% de l'énergie, ben on ne sait pas où elle est. Et je me dis, ah ça c'est intéressant, c'est un domaine qui en fait, il ne marche pas du tout. Et donc, il va falloir réinventer complètement.
Alors, est-ce qu'il va falloir tout réinventer, François?
Ah oui, oui, c'est une vraie question. Hein, c'est bien possible, parce qu'en fait, c'est vrai, et même, il a été très optimiste, on ne connaît pas 75%. Toutes les étoiles et les galaxies qu'on voit, c'est 0,6% de la matière visible ordinaire, hein, faite d'atomes comme nous avons ici.
Ce qui veut dire qu'il y a 94%
invisible
qu'on ne connaît pas.
Tout à fait. Et donc, à la fois matière noire et énergie noire. Alors déjà, matière noire, c'est un problème plus ancien que l'énergie noire. On a beaucoup de candidats et depuis 30 ans, on cherche dans les accélérateurs, par exemple.
Les accélérateurs de particules.
Des particules exotiques, parce qu'on sait qu'elles ne sont pas ordinaires, elles sont exotiques. Mais on ne les a pas trouvées, c'est ça. On avait une théorie de supersymétrie qui a tous les diffuses de particules élémentaires qu'on connaît associés des supersymétriques et on ne les a pas vues du tout. On a vu le boson de Higgs en 2012 et à la même énergie, on prévoyait des tas de particules qu'on n'a pas vues. Donc on est vraiment en crise aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de particules qui correspondent à ce qu'on attendait. Alors évidemment, il y a aussi les théories alternatives qui sont de changer la loi de la gravité parce qu'en fait, il y a une dégénérescence ici. Les matières noires, on la connaît parce qu'on a des mouvements. Donc la cinématique de la matière qui tourne autour de quelque chose, on en déduit qu'il y a quelque chose qui est complètement invisible au centre. Mais finalement, simplement, on pourrait changer la loi de gravité et ne pas avoir autant de matière, et ça marcherait aussi.
C'est-à-dire qu'on pourrait aussi quoi imaginer, ou même une autre géométrie de l'univers qui nous permettrait de nous passer de la matière noire,
exactement,
par exemple.
Exactement. Donc il faudrait changer, étendre la loi d'Einstein, elle est tout à fait vraie dans le système solaire, il n'y a pas de matière noire dans le système solaire, mais au-delà... On ne l'a jamais vérifié, puisqu'on n'est pas encore allé au-delà du système solaire. Et donc, on ne sait pas si la loi de gravité d'Einstein est encore bonne jusqu'à ces distances-là. Et donc, peut-être, il n'y a que l'astrophysique qui peut la mesurer. Et justement, il y a un problème. Donc, il y a beaucoup de théories alternatives de gravité modifiée. Et c'est en plein essor. Et puis surtout, pour rejoindre avec la physique quantique. Donc, il y a la gravité quantique qui prédit des choses.
La plus petite échelle.
Voilà, petite échelle. Mais qui a aussi des conséquences à grande échelle. Et donc, par exemple, le Big Bang et le Big Crunch, on avait vu qu'en effet, il y a une taille minimum en mécanique quantique. Donc, le Big Bang ne peut pas être indéfini. Il va rebondir, peut-être. Et donc, tout ça, lorsqu'on aura une théorie de la gravité quantique, on aura peut-être la solution à cette matière noire qui, peut-être, n'existe pas. Je dis peut-être, on n'en sait rien.
On n'en sait rien. Et ça fait partie de vos recherches, quand même, d'aller creuser à la fois dans cette recherche de matière noire, dans cette possibilité qu'il faille tout changer, dans un sens ou dans l'autre. De toute façon, il va bien falloir changer quelque chose.
Il va falloir changer quelque chose, tout à fait. Il va falloir changer quelque chose. Et peut-être, on aimerait faire une pierre deux coups. C'est-à-dire que si on change la loi de la gravité, on peut aussi expliquer l'énergie noire dans la même théorie.
Vous avez les yeux qui brillent quand vous dites ça. Vous pensez qu'on va y arriver de notre vivant
peut-être.
À nous?
Peut-être. En fait, on va lancer un satellite, l'ESA, la European Space Agency, va lancer un satellite en 2021-2022 qui s'appelle Euclid et qui est lancé justement pour résoudre ce problème d'énergie noire, donc d'accélération de l'expansion. Alors comment on va le résoudre? On va observer des tas de galaxies, 12 milliards de galaxies, avec leur vitesse, leur distance, etc. Et donc, comme on en aura une à chaque distance, à chaque époque de l'univers, on saura quelle est vraiment la loi de l'expansion. On sait qu'elle s'accélère, mais qu'en était-il dans le passé? On ne sait pas exactement comment elle a été accélérée. Et donc, c'est ça qui va nous donner la nature de l'énergie noire. Donc, ce satellite va être lancé en 2021-22.
Et puisqu'on remonte, plus on va loin et plus on remonte loin dans le passé. Frédéric Schmidt, vos recherches à vous, votre envie, votre rêve à vous, à l'heure où l'astrophysique va peut-être tout changer, à l'heure où aussi d'autres visiteurs interstellaires pourront approcher notre système solaire. Et là, on ne les loupera pas, on sera obligé de les voir. Sont quoi vos recherches, votre rêve à vous?
Alors, il y a plein de rêves, plein de recherches, évidemment. Mais du coup, pour rebondir sur cette immensité, ce nombre extrêmement grand d'exoplanètes, en fait, il y a quand même des ingrédients très particuliers dans notre système solaire. Apparemment, les planètes gazeuses ont tendance à migrer vers les étoiles et du coup, finalement, piéger, capter toutes les planètes telluriques, donc notre planète, qui tomberait ou dans les planètes gazeuses, ou dans le Soleil, ou dans leur étoile. Et donc, du coup, il n'y aurait pas la stabilité, en fait, de manière générale, pour des planètes telluriques.
C'est-à-dire que nous, là, on serait une exception.
On serait une exception. Et il y a un deuxième ingrédient qui montre aussi qu'on serait une exception, c'est la Lune. La Lune permet de stabiliser notre orbite et c'est extrêmement difficile de faire la Lune. Il faut avoir un impact avec des conditions rasantes de vitesse extrêmement précises et c'est très improbable. Donc deux ingrédients très improbables, on a de la chance de les avoir. Et du coup, peut-être que les prochaines études des exoplanètes en général montreront à quel point ces deux ingrédients-là sont des chances. Et en attendant...
Merci la Terre, merci la Lune. Merci à vous deux, en tout cas. Merci Françoise Comte d'être venue en direct. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le Big Bang. C'est le petit dernier qui est paru chez Que sais-je. Merci Frédéric Schmidt et je renvoie sur Internet pour imaginer les exoplanètes. Rendez-vous demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation et Juliette Brault en coulisses. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur RFI.